2, 1, 2. En quête de cinéma. Quête de cinéma sur Radio Galère 88.4. On est lundi combien, Fab ? Lundi 2 février. Et on reçoit Pierre Merechkowski et Antonella Porcellucci. Avec Fab Copin. David n'est pas là, on pense à lui. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Merci de nous écouter, on espère que vous êtes nombreux. Voilà. En quête de cinéma, Radio Galère 88.4 avec Pierre Merechkowski. Alors, comment on commence, les amis ? Une petite présentation de ce que ce qu'on va vous proposer ? Une lecture ?
Oui, alors il y a une lecture d'un feuilleton qui s'appelle « Ich bin très gentil ». Je ne suis pas un terroriste. Voilà, parce que moi, mes films, donc je fais plutôt du cinéma, c'est la raison de ma présence dans cette émission, mais je fais souvent des films qu'on peut qualifier de littéraires, c'est-à-dire que dans mon cinéma, il y a beaucoup de textes, il n'y a pas vraiment du récit, il y a du texte, il y a des positions politiques, peut-être philosophiques, enfin je ne veux pas avoir cette prétention non plus. Et donc c'est pour moi le texte qui prime dans le film et pas l'éclairage, ou la jolie comédienne, ou le suspense, ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le verbe qui compte. Donc, c'est un peu normal que j'ai aussi une activité d'écrivain. Voilà. Et ma raison de venir à Marseille, c'est que depuis quelques temps, j'ai entrepris comme ça de me déplacer de radio associative en radio associative à travers toute la France. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'éditeurs, non pas qu'ils sont tous méchants, mais c'est qu'il n'y a plus de petites librairies qui diffusent des petits labels. Voilà, c'est en voie de disparition. Donc comme il n'y a plus de points de diffusion, ben, il n'y a plus d'éditeurs. Et donc le seul endroit maintenant où on peut présenter des écrits un peu différents, je pense, c'est les radios associatives. Voilà, la présentation est faite.
Voilà, la présentation est faite. Anto, tu as quelque chose à rajouter ? Toi qui vas participer à la lecture.
Tu parles de moi ?
Oui. Oui, je parle de toi. C'est de toi que je parle.
Et ben, oui, là, je suis presque prise au piège par Merej.
Tu parles de piège, mais je trouve ça intéressant aussi de faire les films comme ça. C'est-à-dire, moi, ce qui me plaît dans le cinéma, c'est qu'il y a un projet écrit. Il y a comme ça un espèce de verbe qui serait Dieu. Ben, j'ai de l'humour là. Bon, enfin, faut peut-être pas trop faire de l'humour en ce moment là-dessus. Donc, disons qu'il y a un verbe qui n'est pas Dieu. Voilà, ça va éviter les polémiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe, il soit repris par tout le monde. C'est-à-dire, moi, ce qui me plaît, là, j'ai écrit un texte. Après, qu'on en lise des extraits, que ça soit interprété par telle ou telle personne, d'une certaine manière ou d'une autre, pour moi, c'est pas important. C'est ça qui rend la chose vivante. Quand les choses sont figées, elles sont plus vivantes. Et c'est pour ça que quand les gens qui font des films avec un vrai scénario et tout est pris, tout est prévu, pour moi, ça fait des films un peu mortifères parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'imprévus, il n'y a plus des gens qui s'emparent du produit de la pâte.
On est d'accord avec toi.
Et je pense qu'ils font ça, c'est une histoire de droit d'auteur, de patrimoine. Parce que comme depuis Beaumarchais, on dit que l'auteur, c'est un propriétaire, et pour qu'il soit propriétaire, il faut qu'il touche des loyers et donc qu'il emploie des gens. Donc c'est pour ça que l'auteur veut tout contrôler, pour être sûr de toucher son loyer. Or moi, je pense que c'est pas intéressant de toucher un loyer. Il vaudrait mieux avoir un revenu à vie garanti, artiste ou non artiste. Et comme ça, après ce qu'on écrirait, tout le monde pourrait s'en emparer comme il a envie. C'est pour ça que je t'ai demandé de lire, parce que t'es pas spécialement comédienne, t'as pas un accent tout à fait français, c'est respectueux, je dis ça bien sûr. Et donc c'est comme ça une découverte, on a un petit peu répété ensemble tout à l'heure chez toi, c'est un petit peu un moyen de voir comment on va faire voyager un texte que, écrit d'une manière un peu non contrôlée, parce que ce qui n'est pas le contrôle, c'est la vie.
Exact.
Voilà.
D'accord.
Le contrôle des naissances.
Bon, on part sur une lecture du texte, sachant qu'on ne va pas le lire en entier, voilà. Pour avoir le temps de parler un peu, tous les trois. On va voir ce qu'on va lire, une demi-heure, 40, voilà. 45 minutes. Et de toute façon, il y a un lien sur le site internet derives.tv, D-E-R-I-V-E-S. Vous allez dans Enquête de cinéma et là, il y a un lien pour avoir le texte ou d'autres informations. Donc, on est parti. Bonne écoute, bonne lecture.
Ich bin très gentil, je ne suis pas un terroriste, de Pierre Merezkowski.
Dimanche, 18 mars. Je n'ai aucune raison de vous cacher mon identité. Je m'appelle PM. Je suis de taille plutôt petite. Je porte des lunettes. Je vous aime. C'est dimanche. Ils ont dit que la neige n'allait pas continuer à tomber.
XX m'a dit qu'elle me téléphonerait. J'espère qu'elle va me téléphoner. Je ne suis pas certain qu'elle va me téléphoner. J'ai peur qu'elle ne me téléphone pas. J'aimerais qu'elle me téléphone.
Je ne supporte plus vos rapports de séduction. XX est lié par son corps à l'homme de sa vie. L'homme de sa vie est parti sur le chemin de Compostelle, c'est son problème. Non, j'ai tort, c'est mon problème.
Elle s'est suicidée. Elle a été paysagiste. Elle n'a plus été paysagiste. Ses parents étaient des connards d'extrême droite.
Elle a écrit un scénario en commun avec une scénariste, cinéaste femme qu'elle aimait. Un producteur a repris le scénario en s'arrangeant pour l'éjecter. Elle.
C'est tellement jouissif pour un producteur de masquer une impuissance créatrice et se donner un rôle d'éjecteur sur un prétexte d'efficacité professionnelle. Nous sommes tous coupables.
Tous.
Le suicide de LLL.
Et vos téléphones, je ne supporte pas.
Vos bagnoles, j'en veux pas.
J'ai un chauffe-eau.
Ça me suffit largement.
Qu'est-ce que ça peut vous foutre de connaître mon nom ? Je vous dirai pas mon nom. Ils ont pris l'habitude, les dominants, de personnaliser le débat, la politique. Ils attendaient tous de savoir qui de moi ou de B allait finalement sortir vainqueur du débat qui nous opposait et qui nous oppose toujours.
Je ne suis pas un débatteur. J'ai un téléphone. Je n'ai pas la télévision. Et vous pouvez, si vous souhaitez, me téléphoner. Ça,
mais parfaitement,
m'est parfaitement égal.
Le nom complet de B et des autres seront dévoilés le moment venu. Et ce jour-là, les comptes seront réglés.
Définitivement.
Le système médiatique nous oppose les uns avec les autres.
Un jour, les chasseurs contre les non-chasseurs. Le lendemain, les Français contre les non-Français. Le surlendemain, l'extrême gauche contre l'extrême droite.
Mais je vous le dis à tous, le temps viendra où tous ceux qu'ils appellent les extrêmes se débarrasseront. Les manipulateurs vendus à la presse, comme cette salope d'avocate.
Oui, salope, j'ai le droit d'employer ce terme. Et je vous emmerde tous et toutes, autant que vous êtes femmes aux hommes. Ce n'est pas la peine de tenter de nous diviser entre hommes ou femmes.
Ce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne veulent pas voir, c'est leur pourriture, votre pourriture.
Elle m'a souri quand je suis rentrée dans la salle de sport. Elle était assise sur la selle d'un vélo d'appartement. Et puis, elle a écarté ses cuisses pour me montrer sa petite culotte.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre de sa petite culotte ?
Vous n'avez pas encore compris que le principal danger, c'est leur programme électronucléaire fasciste.
Vos chauffe-eau et votre cafetière, en chauffant l'eau en un temps record, contribuent largement à la demande électrique et donc à la mise en œuvre du programme électronucléaire fasciste. Je ne suis pas animé par un souci de communication. Je ne suis pas un communicant.
Je ne suis pas un porte-parole, ni un porte-voix, ni un délégué élu ou non élu.
Mort aux fascistes,
aux bureaucrates,
aux manipulateurs,
aux présidents des associations, loi 1901,
aux profs de fac
et aux réparateurs d'échafaud. Dimanche, 31 mars, en fait, je me suis trompée. J'ai manqué de précision. Je suis plutôt d'une taille que je qualifierais sans exagération de moyenne.
C'est dimanche.
Le pape, élu, leur a souhaité de passer un bon dimanche, l'avant-veille. Il leur avait souhaité de passer une bonne nuit, Les papes veulent tous passer des bons dimanches et des bonnes nuits.
Le dimanche qui a suivi la crucifixion de Christ,
Judas
a fait la constatation que les disciples de l'évangile reconnu avaient mangé et dormi.
Alors que lui,
le traître désigné pour l'éternité,
il n'avait ni mangé ni dormi,
puisqu'il s'était pendu, manifestant ainsi son attachement à la personnalité extravagante de Christ, qu'il avait désigné au martyr collectif conformément
aux vœux de Madeleine et d'Elsa. Je ne sais pas si Christ était d'une taille moyenne ou grande ou petite. En tout cas, ce qui me concerne, je ne l'ai jamais laissé entendre que je voulais dîner et dormir et encore moins me pendre dans la chambre de XX.
Je dois, sur cette triple question, faire preuve d'une intransigeante clarté. Je vais faire un procès à XX. Je ne vois pas pourquoi XX s'arroge le droit de refuser de coucher avec moi.
Dans le cas totalement improbable où je me laisserais aller à exiger par tous les moyens de coucher avec XX, soit par chantage, soit par une exhibition en attouchement, voire en viol, je serais juste à titre condamné par la justice de la République socialique.
Par contre, XX, en refusant de coucher avec moi, m'impose sa propre règle. Je considère donc que je suis parfaitement fondé à demander à la justice des dommages-intérêts pour réparer une tentative d'emprise sexuelle sur mon propre mode de fonctionnement.
J'ajoute également que confronté au ricanement d'une avocate de ma connaissance, j'ai unilatéralement décidé de ne pas procéder sous huitaine à la réparation de mon chauffe-eau.
Le chauffe-eau, c'est le territoire de l'hygiène conjugale. Je refuse le territoire de l'hygiène conjugale. Je refuse de partir en vacances en voiture avec XX. La voiture avec bonus ou prime à la casse, c'est le symbole de la liberté du couple
enfermé dans son hygiène de territoire.
Et rêvant de se déplacer dans un autre territoire enfermé hygiénique.
Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un gourou. Oui, roux et roux et roux.
Rue.
Vive l'international!
À bas les territoires hygiéniques! Rue! Dimanche 31 mars, leur pape élu leur a souhaité de passer un bon dimanche. L'avant-veille, il leur avait souhaité de passer une bonne nuit. Les récupérateurs et les prédateurs agissent toujours de concert. À l'origine de toute institution papale ou génératrice de chauffe-eau, il y a un mouvement inorganisé.
Le mouvement du 22 mars et autres con-bendites voulaient abattre le capitalisme. La planète, pour eux, n'appartenait pas aux vivants et était donc séparée de l'oppression capitalistique.
Avec quelques camarades, j'ai malheureusement pas retenu le nom.
Nous avons défilé avec des masques à gaz sur le boulevard Saint-Michel pour alerter les propriétaires de voitures à peau à la casse sur les dangers qu'ils faisaient personnellement courir à l'ensemble de la population.
Je suis passé un directeur sur RTL.
À cette époque, la radio n'était pas dirigée officiellement par les prédateurs professionnels.
Et puis, il y a eu ensuite la première manifestation organisée à Bugey contre la centrale nucléaire. Cette manifestation a été initiée par Pierre Fournier. Figure historique de Harakiri Hebdo, qui ne présente aucun point en commun avec la personnalité du professeur Charon.
Que le réalisateur Pierre Carl s'est ingénié.
Comme le principal animateur de Harakiri Hebdo. Afin de ridiculiser toute forme d'utopie remplissant aussi le cahier de charges de sa chaîne Canal+. Mais la question n'est pas là. La question des valets sera réglée plus tard avec PM de moyenne taille ou petite, peu importe. J'en suis ensuite allé chercher René Dumont à la descente d'avion pour qu'il soit le premier candidat écolo en 1974.
Dumont a trahi. Il n'a pas donné son temps de parole et a appelé à voter pour François Mitterrand au second tour. L'offensive générale contre toute forme d'auto-organisation à l'échelle humaine s'est déchaînée. Ils m'ont traité de terroriste vert dans un de leurs tanchons branléchés. Ils ont multiplié les coordinations, les officines de pouvoir en forme de comité de soutien.
Ils n'ont pas tardé comme les Delphines
et autres Grolandais alliés de Depardieu et autres Taddeï à dissoudre leur haine d'eux-mêmes et leur peur de la mort dans leur cognac.
Nous devons faire preuve de lucidité. Les leçons de l'histoire doivent être tirées.
La ministre verdâtre passée a une large part de responsabilité dans notre misère sexuelle que Robespierre et sa clique ont institutionnalisée en détruisant toute forme d'entraide. Et ce, au nom du siècle de la lumière.
Dimanche 14 avril, un rayon de soleil glisse sur l'œuf dur, puis disparaît, sauf la banquette du café-tabac. Les couples avec enfants s'ennuient dans le café-tabac. Les couples sans enfants s'ennuient dans le café-tabac. Le ministre, l'ex-ministre, est brûlé de remords. Il s'est laissé entraîner dans une spirale de mensonges qui l'a dépassé. Je ne me suis pas laissé entraîner dans une spirale de mensonges qui m'a dépassé.
Je n'ai pas menti.
Je n'ai pas menti.
Je n'ai jamais dit à Ixis que je voulais
fonder. Jamais.
Je n'ai jamais dit que je procéderais à la réparation du chauffe-eau dans un délai raisonnable. Je ne suis pas un couple qui s'ennuie dans le café-tabac.
Jamais. Le ministre bourrait les pleurs. Je n'ai pas pleuré chez XX. XX m'a annoncé qu'elle avait passé une nuit avec un homme et qu'elle avait dit à cet homme qu'elle voulait un enfant de cet homme puisque cet homme lui avait dit qu'elle l'aimait. Cet homme s'est levé, il s'est habillé. XX n'a rien dit. L'homme n'a rien dit. Je ne dis rien. V1 a été traité de terroriste vert par un mensuel branché dépendant du GDD, Gros Diffusion de Dramatique.
Le chauffeur du bus a soufflé et a pour antiparticules secondaires entrave la montée du bus à un jeune. Je demande au chauffeur du bus à pour antiparticules secondaires si l'entrée du bus à un jeune qui a traversé la chaussée en débit du signal au rouge du feu de signalisation
est systématiquement interdite par le code du respect
civique et laïque. Le chauffeur du bus ne répond pas. Je demande au chauffeur du bus à pour antiparticules secondaires s'il se sent bien.
Dimanche 14 avril, le soleil brille. Et alors, et après, qu'est-ce que c'est que ça peut leur foutre que leur soleil brille ?
Les cloportes en couple occupent le zinc des cafés-tabac.
Un rayon de soleil glisse sur le cuissard d'une bourgeoise.
Le rayon disparaît sous le cocotier.
Je ne le hais pas.
Je sincèrement, ne le hais pas.
Je ne le hais pas.
Les couples
avec marmaille sont parfaitement libres de s'agglutiner autour d'un zinc d'un café tabac, mais je ne pleure pas non plus sur leur sort. Plutôt, pourquoi ?
Pourquoi est-ce que je devrais plaindre un ministre brûlé de remords qu'ils disent, et pendant que tous les couples de cloportes guettent la une du journal du jour ou de la semaine ou du mois pour savoir si le ministre brûlé de remords s'est jeté par la fenêtre, lui, pendant ce temps, le ministre brûlé de remords,
il planque
des plans sociaux en Suisse sur des comptes secrets. Je ne suis pas un planqué ni un déserteur, comme ce petit salopard de PM de petite ou de moyenne taille.
Ils ont supprimé la plateforme découverte du bus à peau alimentaire, conformément à leur volonté d'interdire tout échange qui ne repose pas exclusivement sur la diversité et donc sur le commerce. Le conducteur du bus a soufflé et à peau antiparticules secondaires.
Coince un cycliste contre l'arrêt du trottoir. Je demande au chauffeur du bus collectif s'il se sent bien. Le chauffeur du bus collectif me répond qu'il se sent très bien. La ministre Verdard se sent très bien.
Elle lutte contre la corruption.
Oui, et ensuite quoi ?
Et vous, et moi, et eux, et nous, et elle.
Répondez. Je vous somme de répondre.
Vous
enfouissez où les déchets radioactifs et les prédateurs branchouillés ?
Dans des mines, sous la mer, sur la lune. Dans un système solaire, dans un camp de concentration.
Et les cloportes en couple avec leurs marmailles en bas âge qui consomment en énergie autant que 1000 marmailles.
Ça vous fait rire ?
Vous faites quoi ?
Ça vous fait rire ?
Répondez.
Répondez.
Je vous somme de répondre. Ça vous fait rire ?
Ça vous fait rire ? Dimanche 28 avril. Je n'ai pas pour habitude de passer mon dimanche dans un bus à peau à antiparticules élémentaires. Je passe mon dimanche à occuper mon esprit. J'assiste en tant que membre actif, non passif, à la réunion citoyenne destinée à favoriser la prise de conscience des habitants du quartier. Je ne suis pas un habitant du quartier. Zézé et Vévé sont des habitants du quartier. Elles sont à la recherche de leur propre équilibre. X1 n'est pas en quête de son propre équilibre. X1 avance masqué.
La société est un spectacle. Et il convient pour cette raison d'avancer masqué. Je ne souhaite pas avancer masqué.
La centrale nucléaire
est une énergie centralisée qui, en tant qu'énergie centralisée, constitue une énergie totalitaire, autoritaire et donc fasciste. Et il est criminel de tenter de recruter les habitants en agitant le spectre de la sécurité. Une centrale nucléaire ne présente aucun risque sanitaire majeur.
La riposte de X1 est instantanée. Il démontre en quelques phrases que mon sectarisme hygiénique constitue une inqualifiable tentative de prise de pouvoir sur l'ensemble des participantes de la réunion des habitantes du quartier. ZZ se tait.
WW m'invite à me questionner sur l'incontestable rapport qui relie ma misogynie à ma soif de pouvoir.
Je ne demande pas à l'habitante haïtienne le numéro de son téléphone mobile. Le désir sexuel révèle notre face cachée, à qui a été évoqué par le ministre menteur. Le mensonge est un tigre en papier.
Jean-Paul Sartre a menti parce qu'il ne voulait pas désespérer les rêves d'émancipation de Billancourt. Je ne devais pas désespérer les rêves d'émancipation de l'habitante haïtienne. Le refus de la peur et donc du désir de protection d'une habitante haïtienne ou non constitue la seule réponse à la question de la prise de pouvoir de l'énergie électronucléaire machiste et misogyne.
Machiste et misogyne. Dimanche 28 avril, le bus est un moyen de transport collectif, c'est une affaire entendue. Mais la question du collectif est une question secondaire. La question principale est celle du déplacement toujours plus fréquent, nécessitant toujours plus d'énergie. Et je parle ici du transport collectif dans l'espace-temps.
Pas du transport amoureux.
Je plaisante.
Un peu d'humour de brut dans un monde de brut, il faut bien le reconnaître. De l'humour, il en faut, car l'humour existe, il suffit d'y croire.
Il suffit.
Samedi.
Samedi, c'est-à-dire hier, à 20h34. Suite aux propos que j'avais énoncés contre le prof de fac, autoproclamé de la décroissance, et ce, dans les circonstances qu'il ne m'appartient pas de révéler, un jeune militant verdâtre m'a demandé d'apporter...
Contradiction à la ministre verdâtre, autodésignée comme tête de liste. Je ne présente pas mon carton d'invitation.
Ils n'ont pas besoin de carton d'invitation.
Ils se cooptent entre eux et ils ne m'ont même pas donné de carte d'invitation puisqu'ils ne savent même pas que j'existe.
Pour l'instant, je les laisse continuer leur rituel socialique. Une chef militante verdâtre, habillée en rose, tient le micro à la main. Les arrivistes expriment leur refus d'alliance avec les soviétos, libéraux fascinés par les combats de boxe. Le militant jeune verdâtre guette les prémices de ma position éclairante. En fait, ce n'est pas un militant jeune verdâtre. C'est un militant jeune verdâtre, mais peu importe.
Le sexe d'un militant n'est pas une question militante. Et c'est là ma grande faute. Je le confesse, con et fesse. Les lèvres roses, rouges, bleu ciel de la ministre verdâtre s'endouvrent. Je suis frappé par un incontrôlable dérèglement nerveux. Je bondis sur la tribune.
Je bondis sur la tribune.
Le micro sans fil. J'affirme que la frustration sexuelle de la ministre verdâtre, engendrée par les prédateurs néolibéraux...
Et à l'origine de sa tentative de prise de contrôle de l'organisation de l'appareil politique verdâtre, qui est lui-même imbriqué dans ses
propres frustrations sexuelles, qui génèrent ainsi d'autres tentatives de prise de pouvoir, ainsi que la ministre verdâtre l'a elle-même révélé en expliquant dans le micro de la radio socialique du service public qu'elle avait toujours eu dans son adolescence un contact difficile avec les autres adolescents qui flirtaient et qui baisaient la nuit, le jour, le matin, l'après-midi.
Le sous-chef militant me remercie pour cette question. La jeune militante verdâtre pose une question. La déléguée propose de passer au vote. La chef militante me propose un macaron. J'écrase contre mon talon de fer le macaron. Mon père a exercé toute sa vie sa profession de maçon. Ma sœur n'est pas maçon. Elle a épousé un militant brun rouge pro-palestinien. Et le verre d'eau pétillante de la ministre verdâtre... Je n'ai pas offert constitue un épiphénomène.
Dimanche 28 avril. Dimanche 9 mai. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir où je suis? Je suis là ou ici? Je ne veux plus vous parler. Bien sûr, je connais d'avance les conséquences de mon repli autistique. Je vais passer une atroce nuit. Je suis resté assis sur le tabouret, un tabouret gris ou rouge ou vert, verdâtre.
XX m'a demandé de l'accompagner dans un café au bord du canal. Autrefois, Myriam, je l'accompagnais dans un café au bord du canal. XX m'a dit, je t'attends encore 3 minutes. Puis elle a dit, je t'attends encore 2 minutes. Puis elle est partie.
Je suis resté sur la berge du canal.
Canard.
Les canards dans la mare, mare au canard. Mare.
Mare. Un homme moustachu avec une queue de cheval m'a dévisagé. Myriam ne connaissait pas d'homme moustachu.
Je ne l'ai pas fait.
Vous savez très bien
ce qui se cache derrière ce « je ne l'ai pas fait ». Je me suis exclu moi-même unilatéralement de ce café au bord du canal. Je suis parti là-bas, plus loin et pas ici. Je suis juste sujet à un dérèglement nerveux passager lié à un sentiment de frustration sexuelle et de culpabilisation, ainsi que la brillamment démontrée M.M.
M.M. m'avait raccompagné sur le seuil de la résidence blindée et elle avait ajouté « si je peux t'aider, je t'aiderai ». Je t'aiderai.
Je n'ai pas besoin d'aide.
Je n'ai pas besoin d'aide.
Je suis le seul responsable de mes frustrations sexuelles intimement liées à mon sentiment de culpabilité. Les exclus n'ont pas besoin de l'abbé, l'aide à Abbé Pierre.
L'abbé Pierre. Le peuple a besoin de logement. Je ne suis pas le peuple. Je n'ai rien regretté. Je ne regrette rien.
Je baisse très mal.
Je suis jaloux. Je suis possessive. Je ne laisse aucun espace vital à une femme lorsqu'elle couche avec moi. Et je ne réparais pas mon chauffe-eau. XX, oh, une autre, à l'exception de Myriam, qui s'est peut-être suicidée, finiront toujours pour m'annoncer qu'elle aime un homme qui revient d'Afrique ou de la bande de Gaza et qu'elle a justement besoin de ça. Quoi ça?
Dimanche 9 mai. Je sais ce que vous attendez de moi. Vous voulez que je reconnaisse que j'ai un problème avec les femmes? Ou alors éventuellement avec, dans le meilleur des cas, avec ma mère. D'abord, je ne comprends pas l'essence supposée de cette question. La femme n'existe pas en tant que femme, et la mère n'existe pas en tant que mère. La mère est.
Mais revenons à la question des... tant que mère. De la femme.
La femme est un genre différencié pour susciter chez vous d'autres consommateurs votre besoin de consommation, puisque vous êtes incapable de trouver le sens de votre mort.
Vous êtes incapable. Le jeune militant verdâtre, la sous-chef verdâtre, le ministre verdâtre, du meeting verdâtre ont parfaitement épousé la fonction définie par cette question de genre. Le verre d'eau pétillante que la ministre verdâtre m'a proposé était destiné à me montrer que nous sommes dans une interdépendance qui ne repose pas sur une loi naturelle, mais sur le pouvoir de la domination. Et que le ministre verdâtre soit une femme ne change en rien. Ce simple effet de genre asexué, je n'ai aucun regret. Mon auto-exclusion est un acte conscient que je revendique pleinement.
Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Pourquoi revenir sans cesse sur cette question du bus, de ces particules anti-pollution élémentaires? Pourquoi faut-il encore une fois se pencher sur les motivations profondes et éminemment respectables des passagers qui montent dans un bus le dimanche? Déblions radicalement le terrain.
Le dimanche est un jour férié reconnu par la Constitution. En ce sens, les passagers du bus ne se rendent pas sur un lieu de travail. Je suis un passager en ce sens ordinaire. Je ne me rends pas sur mon lieu de travail. Alors, dans ce cas, quelle est la raison de nos présences dans l'enceinte confinée de l'autobus? Simplement que... dans cet espace clos et cependant mobile, puisque le paysage,
ce qu'il est convenu de désigner sous le terme de paysage, défile. La pensée, elle, reste immobile. Et donc, c'est cette immobilité de la pensée confrontée à un paysage, à un quotidien en mouvement, en perpétuel renouvellement. Ici, un pavillon de banlieue, là, un commissariat, puis une école de la République, plus loin, un centre social psychiatrique
qui permet justement de trouver un sens,
un apaisement.
La pensée est enfermée, elle ne bouge plus. La pensée s'arrête de penser. Elle est juste pensée, dénuée de toute mémoire, de tout objet, de toute référence. Bref, en un mot, l'enfermement de la pensée dans un bus anti-pollution primaire, c'est la liberté.
Telle est la raison de ma présence hebdomadaire dans ce bus. Il est à noter cependant que les autres jours de la semaine, je ne prends pas non plus le bus pour me rendre sur un lieu de travail. Mais cela est une autre question.
Dimanche 2 juin. Évidemment, je ne connais pas le détail de vos grilles d'interprétation, votre BLD qui répertoire toutes les névroses et les autres maladies
mentale qui ouvre de ce fait un traitement automatique sous forme de gélules
verdâtres
produites par vos industries pharmaceutiques qui sponsorisent aussi bien un groupe d'extrême gauche pour la reconstitution de la 4e internationale que des marchands d'armes placés sous la dépendance de l'enceinte bétonnée de la centrale nucléaire.
Le fait de monter tous les dimanches dans le même bus dénote un grave dysfonctionnement psychique. Mais je tiens à apporter une remarque essentielle concernant votre diagnostic. La structure close d'un autobus, à condition que ses vitres soient soigneusement fermées et que sa porte à soufflet soit tout aussi soigneusement close, constitue
un excellent rempart contre la dissémination du gaz de combat
sarin.
Pourquoi en effet les pouvoirs politiques, confrontés à un déficit croissant de nos dépenses de santé abyssales, auraient-ils eu l'idée de multiplier les trajets de bus, les nuits des week-ends et des veilles de fête?
Chacun sait
en effet qu'une attaque au gaz sarin pour avoir le maximum d'efficacité se devrait de se déclencher en l'absence du ministre verdâtre, responsable depuis de l'ordre écologique.
Et je ne plaisante pas. Dimanche, pourquoi et par quel processus ai-je eu l'idée sans grue de laisser un mot sur le répondeur de Xis? Le répondeur, voilà l'ennemi.
Le répondeur ne répond pas. Le répondeur enregistre. Dans la nuit de la ville, il et elle ne répondent pas. Il et elle n'appartiennent pas à la fameuse question du genre dissocié du sexe. Il et elle ne s'écrit pas dans la nuit. Xis a passé 3 nuits chez moi. Une première nuit le 15 décembre, la veille de mon inscription. Ah, quelle inscription, j'ai oublié, je ne m'en souviens pas. Xis a répété que je l'apaisais. Apaisé. Parce qu'en plus, ils veulent tous être apaisés.
Apaisé.
Mais pourquoi veulent-ils, en dans la question du genre propre à la différence du sexe, être apaisé?
Être apaisé.
C'est dimanche, au jour de la réunion destinée.
Aux habitants du quartier, les habitants du quartier ne sont pas apaisés. La sous-traitante de vendeuse
des perles haïtiennes
est angoissée. La patronne du café est angoissée. La serveuse du café, sa serveuse, qu'elle ne paye pas, se sert directement dans la caisse. Elle se fait sauter par le boucher, l'épicier, les boueurs, qui n'est pas devenu cinéaste. Elle a rendu l'argent de la note à des clients en terrasse qui trouvaient que la facture note était trop élevée. Alors pourquoi elle, la patronne du café, garde-t-elle cette serveuse qui ne paye pas et qui rend l'argent aux clients et qui couche à gauche et puis à droite?
Pierre Merechkovski, Antonella Porcellucci, un extrait du texte Ich bin Terrorist. Comment?
Je ne suis pas un terroriste.
Voilà, excuse-moi. Redis-le parce que je ne t'avais pas mis le micro.
Alors, le texte s'appelle Ich bin très gentil, je ne suis pas un terroriste et publié par les éditions du Crime et du Châtiment qui ne sont pas déclarées à la préfecture de police.
Et on se retrouve dans quelques secondes pour parler de tout ça avec Pierre, Antonella et Fabrice.
Du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Shetland bleu.
Salut à tous, donc nous voilà de retour dans le studio de Radio Galère, hein, donc après cette lecture. Bon, alors, ça vient d'où cette lecture, Pierre ?
Ben, ça vient voilà, d'une espèce d'une vision que j'ai eue, puisque dans les années 70, j'ai participé à ce qui n'était pas encore le mouvement vert écolo officiel. Voilà, c'était quelque chose d'informel autour de Charlie Hebdo historique, pas celui de Valls, justement, ni des caricaturistes, mais un Charlie Hebdo qui revendiquait des choses comme la décroissance, le refus du nucléaire, une société pas basée sur le profit. Voilà, et donc j'ai participé à la première candidature écologique du candidat René Dumont. Et j'ai fait aussi un film qui s'appelle « Il est une fois l'écologie », qu'on peut voir sur Internet. Et donc ce feuilleton est inspiré de cette histoire parce que j'ai un ami qui a très mal ressenti, il a l'impression d'avoir participé à la création d'un mouvement qui après aurait été récupéré par des prédateurs, comme il dit. Donc ça peut aussi évoquer peut-être la dernière candidature de José Bové, où certaines personnes ont envie, comme ça, d'une manière spontanée, de présenter un candidat qui n'était même pas candidat. C'est un peu la même histoire que René Dumont. José Bové a accepté. Et après, j'ai l'impression que certaines personnes se sont senties dépossédées, ce mouvement de solidarité, de choses comme ça totalement informelles. Le point culminant étant qu'on a dit que c'était Canal+ qui ferait le clip de campagne de José Bové, ce qui a beaucoup désespéré les gens. Non pas que c'était Canal+, mais parce qu'ils étaient dépossédés de leur enthousiasme créateur du départ. Voilà. Et donc ce feuilleton, ça fait allusion à cette histoire de René Dumont, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai voulu créer un militant comme ça qui est dans le rejet, enfin de s'être fait avoir, comme on dit, bon, ce qui arrive dans beaucoup d'histoires, mais qu'en même temps serait comme ça propulsé par cette idée d'un amour avec une femme qui le transcenderait et qui créerait aussi un autre univers. Voilà. Donc c'est un peu un feuilleton à deux voix, mais du même personnage, comme si c'était un personnage qui se dédoublait.
Une question vraiment ponctuelle. Il date. Tu l'as écrit quand ?
Oh bah il y a un an à peu près. Je l'écrivais une fois par semaine en gros. Ouais. C'est-à-dire je l'écrivais deux épisodes comme c'est là tous les dimanches. Enfin, c'était un peu une histoire comme ça, un peu comme c'est là écrit quoi.
Oui parce que.
Et je le diffusais en feuilleton sur Facebook.
On débute avec Charlie Hebdo et ça a l'air d'être fait exprès, mais en fait non.
Non, je l'écris bien avant l'histoire de tout ce bazar.
Bien sûr.
Hein. Oui, ce qui fait que c'est. Oui, tout à fait. Franchement.
Ouais.
Non, c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps et voilà quoi. La morale, ça serait que il y a des mouvements spontanés qui se créent par la volonté de belles choses, partout, tout le temps. Et je ne comprends pas pourquoi, après, il y a des gens qui apparaissent, qui disent qu'il faudrait organiser, faudrait qu'on soit efficace, faudrait que... Alors, ça m'a toujours fait un peu rire, mais bon, je ne sais pas. Alors, en même temps, peut-être que si on n'organise rien, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que le rien non plus. Puis moi, je suis un artiste, alors bon, je ne sais pas, quoi.
Alors, le texte, l'écriture dans le cinéma, donc tu disais que bah, voilà, c'était le socle de ton cinéma. En fait, comment ça s'est lié tout au départ pour toi, là, cette histoire de verbe et de cinéma?
Moi, j'ai toujours eu envie de parler, hein, c'est sûr. Alors, le problème, c'est que, voilà, vu les idées que je défends, d'interrogation sur le cadre militant, ou même le cadre du cinéma, ou le cadre de n'importe quoi, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un travail personnel, écrit ou filmé, parce que sinon c'est insupportable pour les autres. C'est-à-dire si je conteste toujours le cadre amoureux ou tout le temps dans un quotidien, même si j'ai raison d'être dans cette attitude d'interrogation, c'est totalement invivable pour moi et pour les autres. Donc j'ai dû me résoudre à écrire, en faire une espèce de fiction qui n'est plus moi, pour pouvoir être avec les autres, pour me permettre... Mon surmoi, en quelque sorte, me permet d'être avec les autres. Voilà. Et c'est ce travail d'écriture. Mais pour moi, l'écriture, c'est pas que des choses écrites. Ça peut être aussi un film, justement. Voilà. Parce que je trouve que le verbe, c'est quelque chose qu'on... C'est-à-dire, il y a une base écrite, mais tu vois, même avec Antonella, elle me disait tout à l'heure, le fait qu'on ait lu ici, c'est pas pareil qu'on les lu chez elle, parce qu'il y a vous. Il y a un studio, il y a la Réunion d'à côté, la G, les Kurdes, tout ça, tout le bordel. Bon, enfin, je dis ça gentiment, hein. Mais ça crée une espèce d'émulation qui fait qu'on ne lit plus de la même façon. Et c'est pour ça que moi, écrire, je me dis que si j'écris, mais que c'est propulsé dans un film, ça ne fait plus tout à fait le même écrit, quoi. C'est-à-dire, j'ai été obligé, pour des raisons administratives, souvent de transcrire par écrit ce que j'avais écrit, pour histoire d'administratif, d'argent, de subvention à la con. Et en fait, c'est pas du tout drôle. Hein. C'est-à-dire, quand j'ai écrit ce que j'avais dit, mais c'était limite très angoissant, alors qu'au film, non, c'était presque gay. Enfin, c'était étrange. Voilà, ça parlait d'un mouvement associatif, deux aléas, d'une télé associative et tout ça. Mais parler, c'était plus la même chose qu'écrit. Ça donnait une autre dimension plus gay, oui, plus vivante, quoi. Voilà. Okay. Donc c'est ça mon but, quoi. C'est d'écrire, mais de...
Et tu penses que cette dynamique est liée au fait de lier l'écriture au cinéma
ou... Non, c'est parce que le cinéma, il y a un public. Quand je le tourne, il y a des gens autour de moi. Donc quand
mais
je lis...
aussi, tu as des lecteurs.
Non, parce que les lecteurs, ils sont pas... Enfin, j'en ai pas beaucoup, d'ailleurs, mais je les vois pas. Tandis que quand je fais le film... Je sais qu'un copain producteur qui m'avait dit un truc marrant, il m'a dit « Je sais pourquoi tu veux pas... » Parce que je pourrais faire les films tout seul, dans ma logique, finalement. Mais non, je pourrais pas. Parce qu'en fait, l'équipe technique, c'est le public. C'est pas une équipe technique. Si tu veux, pour moi, c'est pas un opérateur, c'est pas un mec qui fait l'image, c'est pas un producteur, c'est pas un monteur. Bah, c'est des gens qui m'écoutent, quoi. Donc c'est un public, et c'est parce qu'ils sont là que je peux faire le film. Parce que je me base sur la façon dont ils rigolent, dont ils reçoivent ce que je dis, et je rebondis éventuellement sur ce qu'ils disent pas, et j'écris en fonction du public qui est là, quoi, tu vois. Et pour moi, le film, c'est un public qui écrit, qui écoute un texte, quoi. D'ailleurs, les professionnels, sans méchanceté, souvent, ils passent énormément de temps à faire marcher la caméra ou le son. Ça, et puis dès que ça marche, après ils écoutent plus, mais je leur en veux pas. Hein. Non, mais je leur en veux pas parce que c'est vrai que c'est pas leur travail. Alors moi, c'est pas grave, hein, mais c'est ça qui me plaît de travailler avec eux, parce que dans ce cas-là, c'est pour ça que je prends des micros qui marchent pas ou parce que quand ça marche pas, je suis ravi quand le son marche plus, parce que là, évidemment, il peut plus enregistrer. Oui, mais là, je vais inventer un truc parce que comme il est là, alors merde, ça marche plus. Mais moi, ça me fait rebondir que ça marche plus,
bah oui.
Parce que ça ouvre une porte. Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire sur le fait que ça marche plus, tu vois.
Donc explique-nous en quoi le cinéma participe à ça. Enfin, justement, est-ce qu'il est vecteur de ton écriture ou inversement, comment ça se passe? Il y a un espèce de jeu.
Non,
de...
c'est les deux, quoi.
C'est les deux. Ouais.
C'est les deux qui se propulsent. Tu vois, je me dis, bon, bah, je vais faire un texte. Et puis alors après, comme c'est du cinéma, alors bon, là, par exemple, j'avais pour le projet de faire un film qui s'appellera L'avance sur recette, ou L'avance sur retraite, où je ne demande plus L'avance sur recette cinéma, mais L'avance sur retraite. Alors je me suis dit, bon, comme c'est un film, disons qu'il y a un assistant. Alors l'assistant, je vais lui dire, voilà, en fait, je veux tourner ça dans les locaux de Canal+. Mais alors il va me dire, oui, mais tu comprends, il faut l'autorisation. Alors, comme c'est un film, je pense film, bah, je me dis, bah, dans ce cas-là, je vais appeler le responsable du CNC des autorisations de tournage. Mais pas sur la voie publique, dans le CNC, parce que peut-être je tournerai le film en fait dans les locaux du CNC. T'as les autorisations de tournage de la rue du local CNC. Mais comment on peut tourner? On peut être, parce qu'on a une autorisation de tournage pour tourner des films en France, pour une autorisation de tournage. Mais moi, je veux pas tourner en France, je veux tourner dans les bureaux du CNC. Donc je vais demander au CNC
s'il y a tourné un film dans les bureaux.
Non, c'est ce que je suis en train d'écrire justement. Donc là j'essaye
non, mais je l'ai vu.
De pardon, ouais.
Un film que tu as tourné dans les bureaux du CNC en arrivant.
Ouais, c'est pas encore le CNC, mais pas loin, oui. Mais si tu veux, comme c'est un film, je me dis, je vais inventer une scène, parce que là, on va me dire qu'il faut de mon autorisation. Donc j'ai trouvé le concept, bureau d'autorisation du CNC dans le CNC. Bon, ça fait rire que moi, c'est pas grave. Mais c'est comme ça que j'écris, parce que si j'avais pas l'histoire de l'assistant, j'aurais pas pensé à l'autorisation de tournage au sein du groupe CNC, quoi. Voilà, alors c'est le cinéma qui nourrit ce que j'écris, parce qu'en même temps, tu vois les histoires de portes, là. C'est hyper intéressant, parce que souvent dans les films...
Des choses proches,
voilà,
tu veux dire.
Souvent dans les films, il faut que quand tu changes de lieu... Bon, c'est pas méchant, hein. T'ouvres une porte ou que tu montes dans une auto. Alors, j'ai un film où j'ai fait, mais là, j'ai très content. J'étais bien. J'ai ouvert 10 portes. Comme ça, s'ils n'ont pas compris le champ. Alors, j'ai dit 10 fois, je change de lieu, j'ouvre une porte. Et je l'ai fait 10 fois. Alors, les gens disent, c'est con ton film. Mais non, c'est pas con. C'est parce que le cinéma, ils disent qu'il faut ouvrir que dès que tu changes de lieu, il faut avoir une porte ou monter dans une voiture. Moi, j'ai voulu faire un effort et faire comme eux. Donc, j'ai dit 10 fois, j'ouvre une porte et je trouve que c'est bien. Comme ça, j'ai été pro, j'ai fait un vrai film. Mais c'est le cinéma qui m'a donné l'idée d'écrire ça. Sinon, je m'en fous, moi, d'ouvrir 10 portes dans le vide, quoi. Tu vois? C'est vraiment le cinéma qui m'a nourri, là. Enfin, financièrement, d'ailleurs. Parce que, bon, bah, peu importe. Mais en même temps, voilà, c'est, pour répondre à la question, c'est vraiment les deux qui se nourrissent, tu vois. C'est que je me cale sur ce qu'est le cinéma pour écrire d'autres choses. Et la littérature, je me demande si je ne fais pas pareil. Parce que c'est vrai que j'ai envoyé des livres à des éditeurs. Ils m'ont dit que ça faisait un excellent scénario. Et souvent, j'envoie des trucs au CNC. Ils me disent, mais pourquoi vous nous envoyez ça? C'est un roman, quoi. Nous,
Alors, est-ce que je le fais exprès d'envoyer aux éditeurs des scénarios et au CNC des romans ? Je ne sais pas, mais moi, ça me pose question, parce que cette histoire de cadre, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Quoi.
Ouais, en même temps, du coup, ce sont tes films qui sont comme ça. Quoi.
Oui, ils sont très on me reproche, enfin, sauf ceux qui aiment bien, ils trouvent ça très littéraire, mon cinéma. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça ne se faisait plus trop dans les années 80. Il y avait des films comme ça, de Pasolini, où il y avait des grandes thèses, ou de Buñuel, voilà. Je ne peux pas me comparer à eux, hein, c'est pas la question.
Mais que maintenant, proche à la littérature.
Voilà, maintenant, on est plus dans un cinéma, me semble-t-il, de dénonciation, bon, ce qui n'est pas de mauvaise chose, mais c'est-à-dire ils veulent décrire la réalité. Alors ça peut être pour de nobles causes, c'est-à-dire si dans un film on veut parler des sans-papiers, on va filmer un sans-papier, mais ça je comprends, mais le sans-papier, il faut qu'il corresponde à la vision qu'on a du sans-papier, ce qui à mon avis est totalement crétin, parce que bon, les sans-papiers peut-être, je sais peut-être pas tout, mais franchement, les gens qui sont au RSA, là c'est hyper intéressant, les gens qui sont au RSA, parce qu'un réalisateur il va dire, bah, il va aller à un producteur une télé, il va dire, bon, on va filmer quelqu'un qui est au RSA, bon, dans ce cas-là, il faut qu'il picole, je sais pas quoi, enfin, mais c'est délirant, parce que justement, le RSA, c'est passionnant, il y a des gens qui ont battu, ça va du bac plus 8 à des gens qui ont fait des thèses de doctorat, et effectivement, des gens, voilà. Alors, le cinéma, ils veulent maintenant décrire la réalité. Et il faut que les gens comprennent que si on parle d'un patron, c'est un patron. Si on parle d'un sans-papier, c'est un sans-papier. Si c'est un juif, c'est un juif. Bon, ça, c'est un peu méchant, parce qu'ils n'en sont pas là. Et si c'est un palestinien, c'est un palestinien. C'est-à-dire, la réalité telle qu'on la sent doit être montrée et comprise tout de suite par le spectateur. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup décroché, parce que je comprends pas cette réalité, quoi. Je sais pas... Bon, un patron, je sais ce que c'est. Hein. C'est quelqu'un qui dirige une entreprise et qui gagne de l'argent. Ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'il doit être habillé comme un patron ? Moi, je suis sûr qu'il y a des patrons qui ont un look destroy, hein. Je suis presque sûr que ça existe, d'ailleurs. Parce que c'est comme ça, parce que ouais, j'en sais rien, ils sont dingues. Ou...
Les producteurs de jeans.
Oui, voilà. Alors, mais comme ils veulent faire des films où le spectateur comprend tout de suite... qu'on est sûr qu'on est chez un patron, qu'on est chez un pauvre, qu'on est chez un riche et tout, bah j'essaye de faire autre chose, parce que ça, je trouve pas ça intéressant. On n'est plus dans la réflexion, c'est-à-dire on est dans la description d'archétypes. Mais ça, c'est du journalisme, ce qui est très bien. C'est du journal, c'est du magazine, c'est très bien. Mais me semble-t-il que cinéma a vocation à proposer à notre univers. Et donc, si on parle de quelqu'un, il faut en parler d'une manière... dans toute une globalité qui peut nous dépasser. Tu vois, je conclue là-dessus. Moi, je me suis permis de faire un film qui s'appelle « Les hommes prophétiques », dans lequel je dis « Israël est un État communiste libertaire ». Alors, tout le monde me dit « Ah, c'est quoi, tu délires, la mirage, t'as vraiment pété, Israël est un communiste libertaire ». Alors, évidemment, bon, entre nous, oui, Israël n'est pas un État communiste libertaire. Ok, c'est clair. Mais pourquoi je ne dirais pas ça ? J'ai mes raisons de dire ça. J'ai mes raisons de dire ça, parce que... Parce que si je fais cette proposition que de décréter qu'Israël est un État communiste libertaire, et ce n'est pas vrai, entre guillemets, mais c'est quand même ouvrir une porte à quelque chose. Parce que d'abord, historiquement, ça pas, voilà, Israël n'a pas toujours été aux mains du Likoud et des rabbins et des guignols de genre. Donc, déplacer la réalité, ou même dire, voilà, je peux citer d'autres exemples, j'ai aussi fait
c'est
de...
C'est une perspective voilà, spirituelle.
Voilà, ça donne un autre éclairage sur quelque chose. Et pourquoi décrire je ne sais pas ce qu'ils appellent la réalité, en fait. Voilà, c'est ça la question. Je pense que c'est une fausse réalité.
Mais en tout cas, tu l'évoques pour voilà. la créer.
Bah, oui, en reproposer une autre, tu vois. C'est ça que mon travail de cinéaste. Et je sais, tu vois, j'ai filmé des âgés. Comme ça, dans un film, il y a une âgée reconstituée. Alors, moi, je suis d'accord. Peut-être que je suis mauvaise foi. Moi, l'âgée, ce qui me plaît dans une âgée... c'est qu'il y a un dispositif, il y a un ordre du jour, bon, ça, j'ai rien contre, mais à un moment, quand je suis là, disons, c'est peut-être pas toujours le cas, non, mais moi, ce qui me plaît, c'est quand ça explose, quoi, c'est-à-dire, il y a une réunion d'un ordre du jour, mais après, les gens, d'un seul coup, ils parlent d'autre chose, ils ont envie d'autre chose, tout le monde s'enflamme, alors moi, j'ai essayé de refaire ça dans l'AG que j'ai filmé dans un film. Alors, les gens me disent, mais je comprends qu'ils me disent ça. C'est quoi cet âgé ? T'es salaud de filmer les âgés comme ça. Ça va pas donner aux gens de militer. Mais moi, c'est ma vision de l'âgé. Voilà, c'est ma vision. Tu vois, là, j'ai cité une âgée ici à Radio Galère. Bon, moi, je peux délirer. Bon, je peux pas tout dire. Mais moi, j'ai une vision de l'âgé de Radio Galère. Moi, pour moi, ça me fait rire. Non, c'est pas que ça me fait rire, mais je trouve ça très beau. Voilà, je trouve que c'est ailleurs. Mais pas des propos qui ont été dits, mais de ce qui n'a pas été dit. De tout ce que je ressens qui n'a pas été dit.
Tu veux dire qu'il y a quoi ? Il y a un côté poétique là-dedans qui
mais
est
oui,
en fait...
Mais oui, malgré nous, c'est ça qui est beau, ouais. Tu vois, malgré nous. Il y a toujours, j'espère qu'il y a toujours quelque chose qui, derrière le langage cinématographique ou écrit, il y a quelque chose qui n'est pas dit et c'est ça qu'il faut, qu'on ne peut pas montrer, et c'est ça qu'il faut essayer de tendre vers aller. On ne peut pas le montrer, on ne peut pas le dire, justement, mais ça existe. Et c'est vers là qu'il faut aller, tu vois, vers là vraiment, quoi.
Et pourquoi la volonté est maintenant de mettre en avant une écriture ? Tu dis que normalement ton public est pour le film, est là pour le film. Là, tu découvres un espace de communication.
Non, parce que j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit, mais j'en parlais moins parce que.
C'est Facebook.
Non, j'ai même été publié dans une ou deux médias d'édition. Hein. C'est censé être ton cas, bon, peu importe qui, mais j'ai toujours écrit. Et maintenant, je ne sais pas trop pourquoi, c'est devenu une nécessité. Parce que les films, voilà, ça a quand même commencé comme ça, l'histoire des films. J'en ai fait deux ou trois que je n'ai jamais voulu montrer. Et je disais aux gens, le but du film, c'est une collectivité qu'on va créer ensemble. Le temps d'un tournage, un espèce d'élan commun qu'on va partager, c'est ce qui nous unit. Donc je ne vois pas l'intérêt de montrer ce qu'on a fait, puisque les autres n'étaient pas là. Et ça, je l'ai dit aux gens, et il y a une personne qui m'a dit, bon, je vais quand même faire ton film, mais je ne te crois pas, tu le montreras un jour, parce que je te connais plus, je te connais mieux que tu ne te crois toi-même. Donc voilà. Mais, et donc, l'écriture, ça a été un petit peu pareil. Maintenant, alors après les films, justement, que je ne voulais pas montrer, en fait, j'ai fini par les montrer, même ceux que je ne voulais pas montrer, et c'est devenu une nécessité pour moi de les montrer partout où je peux aller, enfin même surtout dans des petits lieux, d'ailleurs plus dans des petits lieux que dans des lieux officiels. Et l'écriture, maintenant j'ai l'impression que c'est un peu la même nécessité pour moi de les lire, quoi. Alors la raison, elle doit être personnelle, mais c'est comme si j'avais l'impression que j'allais de nouveau repartir dans quelque chose qui allait me pousser à faire d'autres films, en fait. Voilà, c'est-à-dire je vais un peu m'éloigner, et je renie pas du tout ce que j'ai fait avec le groupe Zaléa, parce que dans mon système, les films, comme j'ai dit que l'équipe technique, c'était mon premier public, et j'ai pas honte de le dire, mes films sont beaucoup influencés avec les gens avec qui je travaille. Alors quand j'étais avec le groupe Zaléa, qui est un peu l'équivalent de Radio Galère sur Paris, une télé associative, et j'ai un grand amour pour eux, vraiment, c'est pas une sorte de manipulation, ben je me suis mis aussi à faire, entre guillemets, de la télé. Ce que je renie pas, hein. Ça fait des films que j'aime bien, les cinétracks, tout ça, vraiment, ça serait à faire, je les referais. Mais maintenant, je me dis que j'ai une autre étape, que je suis avec d'autres gens pour faire mes films, et eux, ils me poussent justement à être dans le non-sens, c'est-à-dire à me dire, tu vois, il faut que tu parles de l'abbé Pierre, parce que j'ai fait un film sur l'abbé Pierre. Et puis il m'a dit, bon, tu vois, c'est vachement bien, le film s'appelle L'Abbé Pierre, ok, ça c'est écrit dans le titre, et puis après, tu parles plus de l'Abbé Pierre. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que t'as tes raisons de vouloir parler de l'Abbé Pierre, et j'ai vraiment des raisons profondes d'en vouloir à l'Abbé Pierre. Mais j'aurais pu faire un film, expliquer pourquoi l'Abbé Pierre n'est pas un homme respectable. C'était le titre du départ de ce film. Et puis petit à petit, ça a glissé, ça n'a pas d'importance, l'Abbé Pierre, c'est moi. Voilà, c'est tout. Pourquoi je ne serais pas l'abbé Pierre? D'abord, je m'appelle Pierre, et puis j'ai un côté abbé, j'ai un grand manteau. Et puis, pourquoi ce ne serait pas moi l'abbé Pierre? C'est comme Israël, pourquoi je ne serais pas Israël? C'est encore une fois, au lieu de m'en prendre à l'abbé Pierre, j'ai qu'à décréter que c'est moi l'abbé Pierre, et donc je fais ce qu'aurait dû faire l'abbé Pierre. Bon, finalement, en voyant le film, peut-être que c'est mieux que l'abbé Pierre ait fait ce qu'il a fait, dans un sens. Bon, voilà, parce que je n'ai pas cette prétention non plus. Mais, et je me dis que maintenant, je vais peut-être faire d'autres films qui vont s'éloigner, justement, du sens. Enfin, il y a un sujet, ça, il y aura toujours un sujet, mais je vais essayer de partir ailleurs, quoi, avec ce sujet. Et pour que je parte ailleurs, faut aussi que je me remette à écrire, enfin, que je continue surtout à écrire, parce que, justement, quand j'écris, il n'y a pas de public. Justement, il n'y a pas des gens qui... Enfin, même quelqu'un peut me regarder écrire au bistrot, mais en fait, je m'en fous. Ça n'interfère pas sur la façon dont je vais écrire, du tout. Et donc, je suis obligé d'être face à moi-même et peut-être de découvrir de nouvelles pistes d'interrogation du réel. Voilà, parce que c'est un travail plus personnel qui, je pense, me poussera à déplacer ce que j'arrête pas de dire, ce qu'on appelle le champ du réel, quoi. Voilà.
Donc, ce qui se crée avec le cinéma ne se crée pas forcément pareil avec l'écriture. Dans ton écriture, t'es toi avec toi.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas de... Il peut y en avoir un quand je lis, mais c'est pas au moment où je l'écris, quoi. Tandis que le film, je le réalise, même s'il y a une base écrite comme ce qui est là, en gros, mais au moment où il est réalisé, c'est ça qui est beau, et j'en suis très content. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est justement ça m'échappe, parce que c'est en fonction des réactions des gens qui sont là, quoi, tu vois, même, c'est pour ça que j'aime bien faire des films dans la rue en direct, avec des vrais textes, un texte précis, mais qui est propulsé dans une situation où des gens, c'est pas prévu, parce que je sais pas ce qu'ils vont dire, les gens dans la rue, ou je me souviens là, dans le film Que faire, justement, je m'en suis pris vraiment au Don Quichotte. Voilà, parce que je les ai accusés de s'être occupés des SDF le long du canal Saint-Martin, juste pendant 3 mois, d'avoir mis les tentes. Et après, j'ai dit, de toute façon, il ira chez les Verts faire carrière. Bon, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et il y avait quelqu'un qui était là, qui m'a dit, et j'étais quand même là, tu vois, j'aurais pu te casser la gueule quand t'as commencé.
parce que j'ai pas tellement aimé là, que tes copains caméramans et toute ta clique, parce que vous êtes pas de la télé, donc c'est pire. Vous êtes des branchés petits bourgeois, toi, c'est assez bienvenant ce qu'il m'a dit. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de me donner de l'argent. Et tu me l'as donné tout de suite. Parce qu'effectivement, je ne lui ai pas filé grand-chose. Hein, je ne suis pas un mec bien. Mais je trouvais ça bien qu'il me dise « je veux de l'argent, que je lui en donne ». Moi, je pense que c'est bien que je fasse ça. Et je l'ai fait en mon nom, pas au nom des gens qui me produisaient. Et après, il m'a dit « tu vois, donc j'avais envie de te casser la gueule. Mais quand je t'ai entendu ce que tu as dit là-haut, t'es un mec bien. Bon, t'es complètement barré. Tu parles pas de nous, tu parles pas des SDF, t'en as rien à branler. C'est pas grave. Mais au moins, t'es dans ton histoire. Et moi, je pense que c'est parce qu'il m'a demandé de l'argent que j'ai senti qu'il était hostile à ma présence, que dans ce cas-là, j'ai réécrit ce que j'avais écrit. Je l'ai totalement réinterprété. Et la femme qui joue avec moi, Dominique, pour la nommer, Dominique Ocard, bon, elle a, elle aussi, glissé dans autre chose. Mais c'est parce qu'il y a eu cet incident avant. Et que si ça avait été un vrai film, avec une barrière, un régisseur, un sous-chef régisseur et tout le bordel, alors, je pourrais faire le film avec le régisseur. Parce que ça, moi, j'avais dit, j'avais un film, je lui dis, ah, mais moi, si vous voulez mettre des barrières, alors là, il n'y a pas de problème. Simplement, les barrières, vous les mettez autour de moi. Comme ça, c'est nickel. Dès que je parle, vous mettez des barrières. Parce que là, je trouve que ça va me propulser dans un truc dingue, tu vois. C'est-à-dire, je vais être filmé, et dès que je parle, il y a plein de barrières autour de moi, et je ne peux plus bouger. Et ça, mais le producteur, il a dit, je ne veux pas. Bien, je ne veux pas, tu vois, je t'aime beaucoup, je ne veux pas, tu vois, c'est tout, je t'ai jamais emmené, je ne veux pas qu'on fasse ça. Bon, donc moi, je veux bien qu'il y ait des barrières, si ça vient dans la dramaturgie de ce que je vais écrire.
Okay.
Voilà, mais sinon, si on met des barrières, ben moi, il n'y a plus les gens de la rue, tu vois, il n'y a plus les gens qui vont m'influencer sur la façon dont le texte va être dit, même la façon dont ça va être filmé, tout le processus est arrêté. Il n'y a plus de vie. Et c'est ça que je reproche au cinéma. Comme ils veulent filmer réel, paradoxalement, ils virent tout le réel, tout ce qui pourrait apparaître. Des gens comme ça, dans le champ, je ne sais pas quoi, un chien, n'importe quoi. Ah ben non, surtout pas, parce que ça ne va plus être le réel. Mais c'est dingue, ils disent qu'ils veulent filmer le réel, et dès qu'il y a le réel, ils virent le réel. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même un paradoxe que moi, je trouve étonnant. Donc, je les soupçonne de vouloir filmer une certaine vision du réel qu'ils ont pour... je trouve ça un peu méprisable pour plaire, parce qu'ils disent comme les gens sont cons, il faut bien leur montrer des gens facilement identifiables, parce que comme les gens sont cons, comme ça ils comprendront plus facilement. Ce que je trouve très déplacé de la part de gens qui disent qu'ils veulent l'émancipation des masses, etc. Parce que s'ils sont cons, je ne sais pas si on peut émanciper les cons, justement, c'est ça le problème. Personne n'est con, il n'y a pas besoin d'être émancipé, tout le monde est beau et génial, à condition qu'on lui donne à condition qu'il ait un espace pour exister.
Donc en fait, cette irruption dans le réel en permanence et la possibilité d'être emmené ailleurs tout le temps dans une forme d'instant présent sans arrêt renouvelé est pour toi une espèce d'antidote à une liberté qui pourrait se figer immédiatement. Est-ce que jusqu'à où tu vas là-dedans dans cette posture-là? Où sont tes qu'est-ce que tu fais du coup de tes est-ce que où sont tes convictions et comment tu les malmènes et voilà, est-ce que tu fais la même chose avec tes idées en fait?
Je serais prétentieux de le dire, mais j'ai un axe assez précis d'idées, bon, que je peux dire hein, parce que je développe un projet en ce moment d'une plateforme numérique à partir d'un film qui va passer le vendredi soir à La Torpille, vendredi prochain, là, qui s'appelle...
À 20h.
À 20h, voilà, qui s'appelle Voyage au cœur de l'Europe socialique. Et j'ai trouvé intéressant, à partir de ce film, de le décliner sur Internet en faisant un mouvement politique qui s'appellerait Oser le socialique. Et donc, pourquoi Oser le socialique? En un mot, tout le monde parle du social, de l'extrême droite à l'extrême gauche, sauf qu'il y a un hic, d'où le terme social hic. Bon, voilà, d'où l'Europe socialique. Et dans cette plateforme, pour répondre à ta question, les idées politiques, elles seront dites sous quatre thèmes précis qui sont un revenu d'existence universel, l'ouverture totale des frontières, vraiment totale, l'arrêt du programme électronucléaire fasciste et du TGV et le café à 0,40 centimes en euros en salle. Alors souvent les gens me disent, tu me fais chier, Mireille. Tu dis trois trucs, bon à peu près, bon, on a du mal à comprendre parfois parce qu'il y a le rapport entre le TGV et la centrale électronucléaire fasciste, c'est pas évident pour tout le monde. Bon, pour moi c'est l'est. Et ils me disent tous, non mais le café à 0,40 euros, c'est quoi ce délire? Mais justement, tu vois, pour répondre à la question, non, je crois que je suis sincère parce que c'est pas pour m'auto-piéger, pour essayer de répondre à ta question, ça serait pas dans ma posture, puisque je m'interroge sur le réel, donc de m'interroger sur mon propre réel et de dire exprès une connerie sur le café, alors que j'ai dit un truc à peu près compréhensible et sérieux, c'est parce que fondamentalement, ça serait ça ma position, je pense que toute idée, même légitime, y compris la mienne, c'est une idée, doit générer une contre-idée, doit pas être figée, quoi. Alors c'est pour ça que j'envoie le... Sans ironie, le café à 40 centimes dans la salle, c'est pas non plus crétin. C'est que le café, c'était un lieu de débat. C'était un endroit où, justement, où tout le monde pouvait parler et tout le monde se mêlait, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était, comme on dit, des propos de bistrot. Bah, dans les grandes villes, il n'y en a plus, parce que le café en salle est très cher et les gens n'y vont plus. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas qu'une plaisanterie que je dis, tu vois.
Tu mélanges le politique avec l'humain,
Oui, parce que l'idée, elle doit s'incarner dans de la chair, tu vois, dans quelque chose qui est vrai. Sinon, pour moi, c'est un discours... Bon, évidemment, moi, j'y crois, cette histoire d'ouverture des frontières et du revenu minimum garanti, les trois points que j'ai dit, j'y crois vraiment. Mais une fois que j'ai dit ça, si ça ne génère pas une énergie ou un rire, bah, je pense que ce n'est pas la peine de le dire, quoi. Enfin, disons que je ne suis pas à ma place, quoi. Tu vois, Mélenchon, c'est dommage qu'il n'assume pas ce qu'il est. Moi, je trouve ça excellent de dire... je suis prêt à être candidat aux élections 2017. Bon, moi, ça ne me dérange pas qu'il dise ça. Sauf que dans la charte du Front de Gauche, parce que je suis quand même un spécialiste, il n'est pas prévu que quelqu'un s'auto-désigne comme candidat. Sinon, je l'aurais déjà fait. Hein, parce que j'ai une aventure avec le Front de Gauche, on s'en doute. Et j'aurais pu décréter que c'était moi qui étais candidat en 2017. Parce que ça, c'est hyper intéressant que dans la charte, on décrète que sera candidat celui qui le décrète. Bon, comme ce n'est pas leur truc... Mais c'est dommage, parce qu'il aurait pu
tu
ajouter...
Tu pourrais te faire même ta campagne avec
non,
un
non,
film,
non, mais non parce que Mélenchon pourrait dire bah, « Je décrète que je suis candidat du Front de Gauche parce que je suis Mélenchon. »
Ça ouvre vraiment des perspectives.
Tu vois, ouais. Au lieu de dire un truc merdoyant, « Oui, mais on va voter un jour. » Non, il ferait mieux de dire bah, « Je décrète que c'est moi qui ai le Front de Gauche parce que je suis Mélenchon et vous avez qu'à faire pareil. » Je vous donne l'exemple. Au lieu de m'engueuler, au lieu de dire que c'est pas démocratique et des adrits... Bah, c'est pas démocratique. Non, c'est pas conforme au règlement du Front de Gauche. Mais c'est pas moi qui ai écrit ce règlement. Je ne sais pas qui l'a écrit. Peut-être des auditeurs peuvent appeler.
Faire attention, ouais.
Bon, enfin, peu importe. Mais voilà. Mais non, mais parce que c'est un peu la même problématique, si tu veux. Ce que j'ai, c'est peut-être pas une posture. C'est pas entièrement une posture, parce que franchement, je crois que j'ai toujours été comme ça et que tout discours, y compris le mien, doit être soumis à autre chose, tu vois, doit se déplacer dans l'espace-temps. Sinon, c'est qu'un discours et moi, ça me fait rire, quoi. C'est pas que ça me fait rire, mais ça m'intéresse pas beaucoup parce que c'est que sur un seul plan. Le plan de la revendication, le plan de... Donc c'est nécessaire, bien sûr. Mais c'est nécessaire qu'il y ait des plans de discours revendicatifs, bien sûr. Mais c'est pas ça qui, à mon avis, ouvre des portes, justement, dans tous les sens, quoi. Voilà.
Alors, et la diffusion de tes films, comment ça se passe qu'est-ce qui s'y passe?
Bah justement, c'est un peu moi mon projet. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec la salle de cinéma, parce que dans mon esprit, la diffusion, c'est comme la réalisation du film, ça dépend du public. Donc je suis très intéressé de pas savoir exactement comment la projection va se passer. Enfin, c'est-à-dire bon, il y a toujours eu un horaire quand même. Voilà, j'ai toujours souhaité que les films passent à un endroit précis et une heure précise. Mais après, quand c'est moi qui l'organise. J'ai pas tellement plus d'idées de ce qui va se passer. La dernière fois, ça m'a beaucoup touché. J'ai passé un film donc qui s'appelle L'Abbé Pierre. Et l'opérateur, enfin la personne qui a produit ce film, qui n'est pas opérateur, en fait, qui est producteur de ce film, il n'y a que lui qui a parlé. Et moi, j'ai trouvé ça ouais, très touchant. Comme si ben, il s'était emparé de l'espace de parole qui, en gros, a priori, était pour moi. Mais je trouvais ça bien que la projection, elle, pour moi, ça devrait être un moment de mystère. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que j'en veux beaucoup aux salles de cinéma. Parce que eux, on ne peut plus. Il n'y a pas de micro, ça commence à l'heure. Et puis les gens, ils me disent, moi je trouve ça un peu triste, ils me disent, on n'a rien contre toi, mais nous, si on va au cinéma, tu vois, c'est pour voir un film. Bon, je peux le comprendre. Mais moi, je trouve ça triste, quoi. Parce que pourquoi on va au cinéma pour voir... on peut aller au cinéma pour voir un film, mais pourquoi ça serait que pour voir un film? C'est terrible de dire des phrases comme ça. Surtout à la Cinémathèque. Voilà, j'avais été invité à passer un film à la Cinémathèque par Nicole Brenez. J'ai pas tellement aimé le film qui est passé avant moi. Bon, je lui dis, c'est vrai, en termes peut-être pas très courtois et assez violents. Mais l'argument de spectateurs, ils m'ont dit, ici, c'est la Cinémathèque, on est là pour regarder les films. Même Nicole Brenez était...
peut-être triste, enfin, elle n'a rien dit, mais peut-être qu'elle pense comme moi. C'est dommage que la salle de cinéma ne devienne qu'un endroit où on passe des films. Parce que dans ce cas-là, c'est quoi ? On va, on consomme, on sort, il n'y a plus d'échange. Bah, c'est pareil, à force de vouloir faire que du réel, ils filment le réel pour que les gens s'identifient, ils montrent ça, les gens s'identifient au truc, ils rentrent chez eux, mais où est la vie là-dedans ? Alors que moi, je pensais que la projection, c'est un moyen de rencontre, de voir d'autres gens, de faire autre chose, quoi. Et les festivals, bon, moi, je sais pas par la flagonnerie, je dis ça, hein, mais j'ai une grande estime pour le Festival des Inattendus à Lyon, parce que c'est un des rares festivals où il n'y a pas de compétition, et où c'est un endroit où les gens parlent vraiment, quoi. Après les films, et même, on passe le film, et après, il y a beaucoup de paroles d'échanger. Ça, c'est la volonté des organisateurs, et je trouve ça très, très touchant, parce que maintenant, dans les festivals de cinéma, bah, on passe des films, il y a une compétition, et puis rien. Puis d'ailleurs, puis franchement, les spectateurs, ils en ont marre. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est pas peine d'hurler, on n'est pas sourds, d'engueuler tout le monde. Non, mais ils m'ont dit, arrêtez d'hurler. Pourquoi vous vous mettez en colère ? On n'est pas des idiots. Nous aussi, ça nous fait pas rire d'être là. C'est vraiment des gens qui m'ont dit à Clermont-Ferrand. Vous voyez, on va au festival à Clermont-Ferrand. Nous, à Clermont-Ferrand, bon, c'est pas méchant, il n'y a pas grand-chose hein, dans l'année. Donc on y va là, on y va avec des copains, c'est une soirée comme tout le monde. Mais vous savez, on est comme vous, ça nous fait pas rire de voir des films à la chaîne et que personne ne parle. Et ils m'ont dit gentiment, croyez pas que nous, en tant que spectateurs, on comprenne pas ce que vous dites, c'est pas à peine de nous agresser et nous injurier en plus. Bon, ça, j'aurais peut-être pas dû, mais je veux dire, par là, en plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, par rapport au cinéma, trouvent ça triste que les lieux de diffusion de cinéma, de festivals, ça soit des lieux où on projette des films à la chaîne, quoi, sans qu'il y ait plus rien, tu vois, qu'il n'y ait plus de vie, qu'il n'y ait plus d'échange.
Il y a énormément de choses qui sont produites de différentes qualités, mais je trouve qu'il y a une production, même underground, complètement indépendante, mais qui arrive aussi au festival. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre qui est aussi un peu déshumanisant, finalement. Parce que finalement, on fait...
Bah, c'est-à-dire, c'est un peu, c'est dans mon esprit, mais là, c'est ma vision des choses, parce que je participe à Paris à un festival qui s'appelle Cinéma Différent, Collectif Jeune Cinéma. Moi, mon point de vue, et c'est la loi, m'a-t-on dit, il faut faire un appel d'offres. Quand on fait un festival, il faut faire un appel d'offres. Sinon, c'est détournement de fonds publics, tout un bordel, parce qu'il y a une subvention. Donc la loi nous oblige à annoncer à tout le monde qu'il y aura ce festival. Donc résultat, on reçoit 3000 films. Et on est un petit festival. Donc, de toute façon, on ne peut pas regarder 3000 films. Voilà, je maintiens. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Hein. J'ai été un moment sélectionneur. Je m'en suis vanté. J'ai fait trois tas. Les gens que je connaissais, j'étais pré-sélectionneur hein, pour montrer aux sélectionneurs. Donc, ceux que je connais, je les prends. Ceux qui ont une jaquette propre, ce n'est pas expérimental. Donc, viré, parce que nous, on ne fait pas les choses propres. Et les films, j'ai regardé 20 secondes. S'il y avait un récit bien éclairé, ce n'est pas expérimental, poubelle. Donc, j'en ai pré-sélectionné 400 en 3 heures. Ce qui est un record, à deux, avec un mec qui était au PC avant. Donc on a liquidé. Non, mais bon, PC, c'est un peu une pique. Mais c'est pour dire, parce que souvent, les gens du PC, ils disent « Ouais, mais tu crois, Mireille, je dois être un espèce de narco, t'as aucune efficacité. » Là, sur ce plan-là, franchement, liquider 400 films en 4 heures, là, vraiment, qu'ils ne fassent pas chier. Ah non, mais là, bon, non, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de me saouler avec ça. Bon, donc là, j'ai été hyper carré. Mais voilà, la question, voilà, c'est que tous les festivals, et c'est pas pareil, c'est pas dans le cinéma, c'est pareil partout, hein. C'est qu'il y a un casier des charges, soi-disant démocratique, que tout le monde doit pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc on est submergé. Alors on peut pas, ça devient ingérable, quoi, de regarder 3000 films. Alors moi, je pense que ça serait plus juste comme...
Surtout que ça fait pas de sens, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens.
Oui, ça n'a pas de sens. Alors on ferait mieux de dire, y a des personnes qui assument le regard et qui choisissent ce genre de film. C'est totalement subjectif. C'est leur propre regard et ils pensent qu'ils doivent... Alors moi, je connais un homme sur Marseille, je ne vais pas dire qui, là, parce que bon, après, je vais me faire engueuler. Mais j'ai un grand respect pour lui, parce que lui, il m'a dit qu'il sélectionnait tout seul les films et il prend conseil de gens. Voilà, qui ont un avis consultatif. Mais c'est lui qui décide. Et d'après ce que je comprends, il ne fait pas un appel d'offres gigantesque, quoi. Et il me dit, comme c'est mon regard, au moins, il y a quelque chose de cohérent, qu'on peut ne pas aimer, bien sûr. Hein. Mais c'est soutenu par une,
par une pensée. Alors que là, on dirait que le travail des sélectionneurs, que ce soit dans tous les arts, hein, c'est pareil, bah, c'est en gros de communiquer, on en revient là, d'être compris par un public le plus large. Donc ils mettent, comme tu dis, un petit coup d'expérimental éventuellement, avec un truc blockbuster, pour dire en gros, bah, c'est démocratique, c'est, tout le monde s'est exprimé, mais tout le monde s'est exprimé, je ne sais pas ce que ça fait, moi. S'il n'y a pas de pensée, ça fait du désespoir, quoi. Ça fait une espèce de supermarché. C'est vrai, parce que même, peut-être, même à la FNAC, il y a des bouquins Destroy, hein, cherchant bien, sûrement, enfin, ou deux jours, quoi.
Et cette plateforme Internet que tu es en train de penser, elle va aussi réunir une multitude d'ouvrages.
Ben oui, parce que là, j'étais dans un peu dans l'idée de mêler tout le cinéma, la musique, que tout soit mêlé dans un produit qui serait pour moi un film, parce qu'une plateforme Internet, comme c'est de l'image et du son, moi je suis un peu bête, pour moi c'est un film, puisque c'est de l'image et du son. Voilà. Mais je trouvais intéressant que dans cette image et du son, on mêle des choses écrites, des choses voilà, audio, chantées, parlées, que ça soit un film qui soit sur plusieurs supports, mais qui ne soit pas enfermé dans la réalité du cinéma, encore une fois. Voilà. Et ça, oui, c'est un projet que j'essaye de mettre en place, là. Oui. Sur Marseille, justement. Donc, j'ai téléphoné à plusieurs personnes pour leur faire part de ces désirs de création de plateforme. Et je vais les voir pendant 2-3 jours. Et en fonction de ce qui sera dit, je pense que je créerai quelque chose. C'est un peu comme ça que je voyais les choses. C'est-à-dire, c'est comme ce que j'écris. J'ai écrit un projet, mais mon souhait, ça serait que chacun s'en empare et que ça devienne quelque chose voilà, qui serait plus moi, mais qui serait oui, quelque chose qui m'aurait dépassé, quoi.
Et c'est quoi? C'est avec des gens, des amis proches, des cinéastes
Non, bah, c'est des gens que je connais sur Marseille, parce que mon idée, c'était de faire 5 films qui auraient été le site aux ailes socialiques. Donc 5 fenêtres, une sur un producteur psychiatre, parce que je pense que c'est un peu la même fonction. Une autre fenêtre sur une manifestation sur la voie publique avec les slogans que j'ai définis tout à l'heure, l'arrêt des centrales nucléaires, leur minimum garantie et tout ça. Une autre qui serait une remise en cause violente de la SACD à travers mon oncle, pour des raisons personnelles, mais qui sont assez comiques. La remise en cause, justement, du droit d'auteur, puisque l'auteur, encore une fois, fige tout, puisqu'il devient propriétaire. C'est pour ça qu'il veut tout contrôler, pour être propriétaire de son œuvre, et donc en avoir des revenus. Donc en tapant sur le droit d'auteur, on tape sur tout, sur les brevets médicaux, sur les brevets des inventions, du sida, enfin, etc., quoi. Si on tape sur le brevet, c'est là où on pourra changer de monde, je pense, comme dit le parti pirate, en quelque sorte. Et voilà. Et il y aurait donc 4 ou 5 vignettes comme ça, qui, après, je les déclinerai une fois par mois, voilà, en rajoutant des éléments. Alors, c'est un peu un paradoxe, parce que du fait que j'écris quelque chose, ce qui est problématique, c'est que je ne sais pas si c'est moi qui écris, est-ce que les gens peuvent s'emparer de ce que j'ai écrit, quoi. Je ne sais pas, si c'est un peu un paradoxe, quoi. Parce que souvent, on me dit ça gentiment, mais comme tu as tout écrit, on ne peut plus intervenir, tu vois. C'est...
Si, on peut, mais pas comme toi.
Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je
te demande si tu laisses de l'espace, quoi.
Voilà. Alors, je me disais que ce qui me plaisait, quand même, au niveau matériel, c'est que les vignettes seraient réalisées ici à Marseille. Et je pensais que la construction de sites se ferait à Angoulême par un groupe que je connais. Et comme ça, je me dépasserais de lieu en lieu pour la réalisation de ce site qui, au moins, si ce n'est pas limité dans un espace, ça ne peut pas être limité qu'à moi. Parce que si je me enfin, évidemment, c'est toujours moi parce que je me déplace. Mais si c'est moi qui me déplace, ce n'est plus vraiment que moi puisque je me déplace. Je ne sais pas si je me comprends, mais... C'est-à-dire, si quelqu'un se déplace, il se déplace. Donc il est en mouvement, donc il n'est pas que lui. Parce que quand tu te déplaces, quand tu es en mouvement, tu es obligé de... Bah tu es obligé de te confronter à quelque chose. Tu vois, là, je ne sais pas où je vais dormir. Non, je dis ça pour rire. Hein. Mais je ne sais, sais pas où je vais dormir ce soir, c'est de mes plaisanteries. Mais justement, c'est, dans le cadre d'une plateforme ou d'un film, c'est hyper intéressant de savoir où on ne va pas dormir. Parce que ça influera sur la création de la plateforme. Surtout s'il faut que j'aille à la Fondation avec mes pères pour dormir ce soir. En leur disant que j'ai un film très bien que j'ai fait sur eux. Si, si, ça va vous plaire. Bon, voilà, mais voilà, c'est un peu, je sais pas tout trop comment, mon désir de que les choses m'échappent, ça je suis sincère avec ça, mais c'est compliqué parce que je sais pas si les gens peuvent, je laisse assez de place justement pour qu'elles m'échappent.
Alors si on a envie de continuer à discuter avec toi, on va pouvoir te retrouver donc, puisque effectivement on arrive au terme de cette émission pour ce soir. On peut te retrouver donc ce vendredi donc à la Torpille,
c'est
à quelle heure, 20h?
Voilà, c'est à 20h, c'est 22 ou 25, je ne sais plus, rue des Fosséens.
Ok, et alors là, tu projettes quoi donc ?
Le voyage au cœur de l'Europe socialique.
D'accord, ouais.
Voilà.
Ok.
Ça dure une heure.
Et quelques mots sur ce film ?
Bah, c'est un film donc je vais à Clermont-Ferrand, à Bruxelles, à Chur en Suisse alémanique, à Bucarest et à Paris. Et à chaque fois, il y a un peu le même dispositif qui se répète. Je fais une conférence des presses. Voilà. Je me fais virer du squat. Bon, c'est un peu prophétique, où j'habite pour différentes raisons. Je parle de Rachel, qui est une femme qui peut-être n'a pas existé ou qui peut-être existe. Et je cherche en rencontre en contact avec un sénateur. Et les gens qui me font changer de lieu, c'est le chat. C'est-à-dire il y a un chat dans chaque séquence qui a été filmé. Même à Bucarest, il est apparu par hasard. Et c'est le chat qui me fait déplacer dans l'espace. Voilà. Bon, ça,
Donc quand il apparaît pas, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pousses le réel un peu.
Justement, c'est ça qui me passionnait. Parce que si je transforme ce film qui est réalisé et qui a une histoire de chat, je sens que là, je vais rentrer dans un truc étrange. Parce que, je ne sais pas... ça va être étrange que j'aille voir des chats pour qu'ils fassent le film avec moi. Donc, il faut que je trouve des propriétaires de chats. Après, il faut que les chats viennent avec moi. C'est toute une histoire. Hein. Et puis c'est peut-être pas si anecdotique que ça, parce que c'est-à-dire si je commence à dire que dans le dispositif, il n'y a pas que les hommes, mais il y a aussi les animaux. Là, chacun trouvera les références qu'il a envie de trouver. Mais en tout cas, les gens qui ont fait ça, par chance, le Vatican, pour ne pas les nommer, et les Staliniens l'ont vraiment demandé d'aller faire un tour. Parce que là, les animaux, ça les gonflait. Mais vraiment, ils voulaient bien s'interroger sur l'organisation. Mais si l'organisation devait être remplacée par le chat, comme dans Bulgakov, pour ne pas le nommer, ou par Saint-François d'Assise, ou qui vous voulez, là, ceux qui organisent l'État religieux ou l'État politique, là, c'est pas possible. C'est la provocation de trop, et là, au moins, je resterai dans mon système d'auto-questionnement. Je ne pourrais pas fonder une église à cause des animaux, parce que là, c'est une provocation insupportable.
Et donc, à la Torpille, vendredi 20h.
Et on est vos chats.
Voilà, vos chats, c'est dans un squat vers Joliette, et on pourra, justement, on aura beaucoup de place pour discuter après, se battre et s'aimer. Donc, on vous invite grandement. Voilà. Merci Pierre et Antonella.
Ouais, merci Pierre, merci Antonella pour cette lecture inspirante.
Voilà, et on espère te revoir. Un de ces quatre, tu repasseras nous voir.
Ouais. Oui, sûrement.
Et c'est quoi la prochaine radio alors pour toi ?
Là, je suis un peu en contact avec une radio. Je vais retourner à Nancy parce que j'ai lu ce texte à Nancy et je vais probablement en lire un autre.
D'accord.
Qui s'appelle Tu crois qu'elle va venir ?
Ouais, tu vas le lire. Tu connais la radio ou pas ?
À Nancy, oui, c'est RCN, Radio Nancy RCN. Qui arrive.
Ok.
Et puis, peut-être j'en ai une autre aussi à Paris, FPP aussi.
D'accord.
Où je fais des choses avec eux, oui.
Bon.
Mais je vais toutes les faire, oui, je pense. Il y en a un certain nombre en France, oui.
Si on a qui ont envie de pousser le bouchon, eh ben, vous pouvez retrouver des textes plus complets sur dérive.tv, le site internet sur lequel nous sommes... hébergé pour cette émission de Radio Galère en quête de cinéma. Vous pouvez retrouver comme d'habitude la totalité des émissions en podcast, celle-ci très prochainement également. On se retrouve dans 2 mois puisque notre émission a lieu chaque 2 mois, en fait le premier lundi du mois aussi, et la prochaine fois, l'eau.
La prochaine fois c'est avec le collectif marseillais 360 degrés et même plus, qui viendront en direct parler de leur façon de faire du cinéma, le pourquoi, le comment et plein d'autres questions nous échapperont, on l'espère.
Ils n'ont pas de territoire, les 360 degrés.
Non, ils n'ont pas de territoire, le territoire associatif légal.
Ok. Bon, bah, bonne nuit à tous et on se retrouve bientôt sur Enquête de Cinéma.
Bonne nuit.
Ciao, ciao.
J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marré, enfin c'est marre, en tout cas.